Laudetur Jesus Christus.
Retour du calme dans les rues de Goma, Goma que le pape aurait dû visiter il y a 2 ans lors de son voyage apostolique en RDC. Le Saint-Siège suit attentivement tout ce qui se passe sur place. Le nonce Kinshasa nous expliquera comment sortir de cette crise. La transition politique se met en place en Syrie, pays que vient de visiter le préfet du dicastère pour les églises orientales. Le cardinal Gugerotti reviendra sur la place des chrétiens dans la future Syrie. C'est un des principaux héritages de la dictature de Pinochet. Au Chili, le système de retraite vient d'être réformé. L'objectif est de revaloriser les pensions qui étaient très majoritairement inférieures au salaire minimum. Il y a 5 ans, le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, mais aujourd'hui, les conséquences du Brexit sont globalement plus négatives que positives. Et puis depuis hier, l'UNRWA, l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens, a cessé ses activités à Jérusalem-Est. Quid de son action dans les territoires palestiniens alors qu'Israël a promis sa perte? On en parlera avec son porte-parole dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Si le calme semble être revenu à Goma et que les habitants commencent à reprendre leurs activités, les inquiétudes de l'ONU se portent maintenant vers Bukavu, au sud du lac Kivu. Depuis 2 jours, le M23 et les troupes rwandaises progressent en effet vers le sud, vers la ville de Nyabibwe, les rebelles ayant affirmé en plus leur intention de marcher jusqu'à Kinshasa. Après l'appel du pape pour la protection des civils de Goma et la mobilisation de la communauté internationale mercredi, le Saint-Siège suit heure par heure les développements en République démocratique du Congo. Hasard du calendrier, il y a 2 ans, jour pour jour, le souverain pontife s'envolait pour son 40e voyage apostolique à Kinshasa. Il n'avait alors déjà pas pu se rendre dans la grande ville de l'Est du pays pour des raisons sécuritaires. 2 ans après, la situation a empiré. Le nonce apostolique en RDC, Mgr Mitya Leskovar, le déplore et nous expose les uniques sorties de crise possibles.
Le message des papes lancé il y a 2 ans, c'est encore plus actuel aujourd'hui. C'est la question que la violence ne porte pas à la violence ultérieure, qu'une situation encore plus terrible pour les personnes déplacées et à une pauvreté encore plus grave de la population. Il faut arrêter ce cercle vicieux de la violence. On peut le faire seulement avec le dialogue et avec l'ouverture aussi au compromis. Sans ça, je crois, n'est pas possible de trouver la paix dans ces pays martyriés par tous ces contrastes, parfois guéris aussi par l'intérêt, soit personnel, soit collectif. Ça ne sera pas possible de sortir s'il n'y a pas cette capacité de dialogue, de s'écouter. Il n'y a pas une méthode seule. On peut dire, voilà, il faut faire ça et après, c'est tout résolu. C'est plus complexe. Et bon, pour les questions complexes, il y a des solutions complexes. Il faut chercher de renforcer les structures de l'État, chercher de combattre la corruption, chercher d'éveiller de plus en plus la conscience de la responsabilité de chacun citoyen pour le bien commun. Vraiment, un des problèmes graves, c'est le trop de focus sur le bien personnel.
Des propos recueillis par Delphine Allaire et les pressions diplomatiques sur le Rwanda, elles se multiplient. Le Royaume-Uni menace de réexaminer son aide au pays. La Belgique demande à l'Union européenne de prendre des sanctions à son encontre. La France, elle, a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Kigali. Après avoir discuté hier à Kinshasa avec le président congolais, il doit s'entretenir aujourd'hui avec son homologue rwandais pour lui demander de se retirer de la RDC. Le cessez-le-feu au Liban, plus que jamais fragile, l'armée israélienne annonce avoir bombardé dans la nuit plusieurs cibles du Hezbollah dans la vallée de la Beka. Hier, elle a affirmé avoir intercepté un drone du mouvement chiite lancé en direction d'Israël. La paix civile et une conférence de dialogue national, c'est ce qu'a promis hier le président syrien par intérim, Ahmed al-Sharr, dans une allocution télévisée. L'objectif est d'écouter les différents points de vue sur le programme politique à venir. Le nouvel exécutif entendra-t-il cependant la voix des minorités? Quel sera le rôle des chrétiens à l'avenir? Le préfet du dicastère pour les églises orientales vient de conclure une visite sur place à la demande du pape. Et cette question fut évidemment centrale, comme nous le confirme le cardinal Claudio Gugerotti.
Il mio appello è stato soprattutto quello di essere una sola voce Je les ai surtout appelés à parler d'une seule voix, malgré la diversité de leurs traditions, de leurs institutions, de leur hiérarchie, parce que sinon il y a un risque d'insignifiance absolue. C'est aussi pour ça que j'ai rencontré les chrétiens orthodoxes. Il s'agit d'avoir une seule voix en ce moment pour défendre les exigences fondamentales, leurs exigences communes auprès de ceux qui gèrent la transition ou qui prendront la relève des forces de transition. Que les chrétiens prennent part à la reconstruction, c'est le grand défi dans la mesure où toute référence à une constitution pour le pays qui renvoie aux principes islamiques entraîne automatiquement la marginalisation ou du moins, disons, la diminution de la participation des chrétiens. Et ce ne serait pas par mauvaise volonté, mais parce que cela fait partie de la tradition. Et c'est exactement ce que les chrétiens craignent. Toutefois, cela ne suppose pas nécessairement des persécutions. Mais si l'on veut penser un État aux multiples facettes et à l'importance égale dans la composition de la société, c'est là que réside le grand rôle des chrétiens et aussi, je dois dire, le grand rôle du Saint-Siège.
Il grande ruolo dei cristiani e anche il grande ruolo della Santa Sede, devo dire.
Des propos recueillis à Damas par Stefano Leschinski. Condoléances du pape François pour les victimes de la collision mercredi soir à Washington entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire. Il n'y a aucun survivant parmi les 67 occupants des deux appareils, a annoncé hier le président américain dans un télégramme adressé à Donald Trump. Le Saint-Père adresse ses prières pour les âmes des défunts et prie également pour les secouristes. C'était un des legs de la dictature du général Pinochet au Chili. Le système de retraite a été réformé. Le Parlement l'a voté dans la nuit de mercredi à jeudi. Le gouvernement cherche ainsi à revaloriser le montant des pensions. Aujourd'hui, en effet, 72% d'entre elles sont inférieures au salaire minimum fixé à environ 500 euros. Le point sur l'évolution de ce système très critiqué avec à Santiago Marion Bellal.
C'était une promesse de campagne du président de gauche, Gabriel Boric, réformer les cotisations en retraite par capitalisation privée. Ce système se base sur l'épargne individuelle et obligatoire des travailleurs, gérée par des administrateurs privés qui réalisent des investissements avec les cotisations. Or, l'augmentation du fonds de pension obtenu est très insuffisante pour la majorité des Chiliens. La réforme doit donc permettre d'améliorer leur situation en intégrant une contribution des employeurs et en augmentant la PUG, l'aide de l'État pour les retraites les plus basses. Pour Juan Ortiz, économiste à l'université Diego Portales de Santiago, le projet de réforme obtenu fait presque consensus.
Ce qui est intéressant, c'est que la réforme valide l'épargne individuelle. Mais en même temps, elle renforce le rôle de l'État, car elle permettra de financer une augmentation de la PUG et de rehausser les pensions actuelles.
En effet, si une partie de la gauche est mécontente car elle juge la réforme en deçà de la promesse électorale de Gabriel Boric, et si une partie de la droite critique la pression sur les employeurs, beaucoup, au Chili, semblent optimistes, à l'instar du professeur d'économie.
Ce qui est passé un peu inaperçu face à toutes les facettes techniques du débat, c'est que la réforme s'est développée d'une telle façon que de nombreuses personnes, je crois, vont commencer à valoriser le système.
Après plus de 2 ans de discussions houleuses, la réforme obtenue pourrait bien, selon le gouvernement, permettre que les pensions soient plus élevées de 14 jusqu'à 35%. Marion Bellal, à Santiago du Chili, pour Radio Vatican.
Que reste-t-il du Brexit 5 ans après? Des regrets, sans doute. Selon plusieurs sondages, 30% des Britanniques estiment que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a été une bonne décision, 55% une erreur. C'est surtout du point de vue économique que les effets du Brexit se font sentir. Mais le Premier ministre travailliste Keir Starmer n'est pas pour autant favorable à une renégociation du traité de sortie. À Londres, Jean Jaffray.
Ce 5e anniversaire intervient alors que la croissance économique oscille autour de 1% ces 6 derniers mois. En cause, un sous-investissement dans les entreprises et une productivité inférieure comparée aux concurrents. Le Brexit a aggravé ces faiblesses structurelles. Ce sont surtout les petites et moyennes entreprises qui ont été le plus impactées par un alourdissement de la paperasserie et un allongement des délais. Les exportations ont baissé de 9%, les transports et services financiers, secteurs qui avaient le plus bénéficié de l'instauration du marché unique, ont décroché de 20% en termes de compétitivité. Par ailleurs, la promesse de contrôler nos frontières n'a pas été tenue. En 2023, le solde migratoire s'est élevé à 782 000 personnes, un record. Keir Starmer et la ministre des Finances, Rachel Reeves, multiplient les annonces de programmes ambitieux concernant notamment l'intelligence artificielle, la construction d'1,5 million de logements et le développement des énergies renouvelables. Cependant, négocier une réadhésion au marché unique européen serait le meilleur moyen de relancer la croissance, d'après les experts. Laurent Jean Jaffré, Radio Vatican.
La bande de Gaza retrouve un peu de calme et voit affluer l'aide humanitaire d'urgence dans un territoire complètement dévasté par 15 mois de bombardements intensifs. La population palestinienne ne peut aller de l'avant sans le soutien notamment de l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens depuis plus de 75 ans. Mais Israël vient officiellement de couper tout lien avec elle, lui interdisant même d'opérer à Jérusalem-Est, même si ses cliniques en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, sont ouvertes, comme l'assure hier Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Malgré tout, cette interdiction ne va pas faciliter l'action de l'UNRWA à Gaza et en Cisjordanie et provoquer quelques casse-têtes organisationnels. C'est ce dont nous témoigne Jonathan Fowler, il est le porte-parole de l'UNRWA.
Nous, les internationaux de l'UNRWA qui travaillent en Cisjordanie et Jérusalem-Est, on a dû partir sous contrainte parce que nos visas ont été raccourcis. Évidemment, c'est très difficile pour nos collègues locaux qui représentent la grande majorité des employés de l'UNRWA. Ils savent pas trop encore quels seraient les risques qu'ils encourent. On est dans le flou total et ça rajoute non seulement le fait que ces lois sont illégitimes sur le point de vue du droit humanitaire international, mais c'est aussi illégitime dans le sens presque moral de garder tellement de flou, et pour les gens qui travaillent dans l'agence, mais surtout pour les personnes qu'elles ont nouvellement en aide. Il s'agit de dizaines de milliers de personnes seulement à Jérusalem-Est.
Le fait d'être interdit en Israël vous empêche complètement de travailler en Cisjordanie, à Gaza, etc.
Nous ne savons pas encore quelle sera la situation, parce que la loi qui interdit nos activités sur ce que Israël considère comme étant son territoire souverain, là, il s'agit de Jérusalem-Est, qui aux yeux du droit international est en fait un territoire occupé et disputé. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est cette loi qui interdit tout contact entre l'UNRWA et les autorités israéliennes. Mais ça nous pose problème quand même, parce que nous avons besoin de pouvoir travailler. On ne sait pas encore comment est défini contact. Par exemple, nous avons des cliniques en Cisjordanie. Qu'est-ce que nous faisons quand les pharmacies sont vides dans ces cliniques? Est-ce qu'on peut acheminer des médicaments de l'extérieur? Ça demande un contact avec les douanes israéliennes. Est-ce que nos collègues locaux peuvent circuler au sein de la Cisjordanie pour gagner leur lieu de travail, les écoles, les cliniques? Qu'est-ce qui arrive en cas d'incursion militaire, par exemple, dans des camps où nous avons des cliniques et des écoles dedans? Mais on reste dans le flou.
Est-ce qu'on peut juste rappeler actuellement quelle est la situation, quelle est votre présence à Gaza en raison de ce contexte justement de guerre?
Nous avons actuellement à peu près 5000 de nos employés qui arrivent toujours à travailler. Nous sommes responsables pour plus de 50% des entrées de l'aide humanitaire. L'UNRWA, c'est aussi des services quasi publics. En l'absence des services publics qui fonctionnent correctement, vu de la situation dans la région. Donc, le système de santé, le système scolaire, mais on a aussi les voiries, les éboueurs, tout ça. Pour l'éducation, notamment sur la bande de Gaza, nous étions responsables d'à peu près à moitié des enfants dans la bande de Gaza, donc 300 000 élèves.
Quand les États-Unis disent soutenir Israël dans leurs décisions, on sait que les États-Unis, traditionnellement, c'est un grand pourvoyeur de fonds, notamment pour l'UNRWA. La question de l'argent, elle est quand même, c'est toujours une question vitale. Est-ce que vous avez l'impression, là, peut-être, de risquer une double asphyxie à la fois économique et politique?
Dans cette situation très sombre, qui fait effectivement que nous n'avons pas de visibilité sur notre fonctionnement sur le long terme, nous avons quand même pu lever des fonds, des privés, des individus, des fondations, des entreprises. Il y a des agences des Nations Unies, l'UNICEF par exemple, avec ses fondations partout dans le monde. C'est pas dans notre habitude, mais heureusement, on a réussi à lever au moins 150 millions de dollars depuis le début de la guerre, par ce vecteur. Et ça, c'était peut-être un signe très important de ce qu'on pourrait faire à l'avenir.
Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut sortir de cette situation de flou généralisé? Comment est-ce que vous procédez pour essayer d'aller de l'avant, justement pour pouvoir rester actif et venir en aide aux populations?
Bon, retrait de ces lois, déjà, c'est primordial, parce que ce sont des lois très dangereuses, non seulement pour la situation, mais aussi ce que ça pourrait offrir un exemple à d'autres pays qui souhaite se défaire du multilatéralisme.
Interrogé par Marie Duhamel, Jonathan Fowler de l'UNRWA a été ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.